Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
13h02 en direct sur Sud Radio. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour Les Incorrectibles, comme chaque dimanche, avec notre invité cette semaine, c'est Guillaume Bigot. A tout de suite.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles, toujours en direct sur Sud Radio, comme chaque semaine, vous le savez également. Nous sommes aussi en live vidéo sur Facebook et dès la fin de l'émission, vous pourrez nous revoir en replay depuis la chaîne YouTube de Sud Radio. Nous sommes ensemble pour une petite heure avec un invité plus incorrectible que jamais pour commenter l'actualité particulièrement chargée de la semaine et nous parler de son dernier livre plus incorrectible que jamais. C'est parti donc pour Les Incorrectibles.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Alors, mon invité du jour est un politologue, essayiste, chroniqueur, diplômé de Sciences Po Paris et docteur en sciences politiques. Il a été collaborateur de Charles Pasqua. Il a soutenu Jean-Pierre Chevènement lors de sa campagne en 2002. Il a également créé le mouvement Génération République avec notamment Natacha Polony. Actuellement directeur général d'une école de commerce, il se présente comme gaulliste de gauche, comme on peut le lire sur sa biographie Twitter. Observateur affûté de la vie politique, il s'est intéressé autant au séparatisme des banlieues travaillées par l'islamisme qu'aux gilets jaunes. Et ces gilets jaunes, justement, il les défend dans son dernier livre intitulé, alors je cite, « Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française » qui parut aux éditions Plon. Il est aujourd'hui à nos côtés pour nous en parler et nous donner son point de vue sur les sujets forts du moment. Guillaume Bigot, bonjour.
Bonjour Éric.
Merci
bonjour.
D'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler de ce livre, on va revenir sur le sujet du moment depuis 24 heures, 48 heures. On ne parle que de cela. Est-ce que vous avez vu ce documentaire qui s'intitule Hold Up, réalisé par Pierre Barnérias?
Je me suis astreint à le voir. C'était un peu long.
D'accord.
Oui, parce que c'était vraiment très long en réalité. Et je trouve qu'il y a dans ce reportage de tout. Il y a le meilleur, il y a le pire. Il y a des informations qui sont fausses. Il y a de l'intox. Il y a même du complot. Ça ne me dérange pas de le dire. Mais pourtant,
c'est un documentaire complotiste selon vous?
Oui, parce que la trame l'est finalement et le propos l'est. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont tout à fait vraies en fait. Hein, mais je dirais qu'un complotisme peut en cacher un autre. Je trouve que la réaction de la classe dirigeante française est disproportionnée et qu'il y a quand même une volonté de censure. Il y a une volonté de chape de plomb parce que bon, alors c'était pas, à mon sens, pas très habile parce que le propos justement est tellement un peu délirant en réalité. De quoi s'agit-il? C'est que le Covid aura été inventé, et comme il a été inventé, pourquoi a-t-il été inventé? Il a été inventé ensuite pour qu'on puisse favoriser l'effet reset sur la finance, c'est-à-dire essentiellement promouvoir de la monnaie virtuelle et faire disparaître le cash. Je vous la fais courte, mais c'est ça l'idée. Or, en fait, l'esprit humain n'aime pas du tout, finalement, ne rien comprendre. Il n'aime pas laisser les choses au hasard. Donc si on lui propose une explication rationnelle de bout en bout, il adhère. Deuxième facteur très important, on l'avait déjà vu avec le 11 septembre, et finalement, c'est des mécanismes qui sont très analogues. Lorsque vous avez des phénomènes, je ne dis pas qu'ils tiennent du hasard, mais qui sont finalement des effets avec des conséquences qui sont disproportionnées. Par exemple, le 11 septembre, vous aviez quelques cutters, à peu près 200 000 euros, et vous avez à cause de ça, Ben Laden et Al-Qaïda ont mis à terre la première puissance du monde. Donc les gens se sont dit, il y a forcément des causes qui sont tout aussi énormes que les effets, d'où la CIA. Mais exactement comme avec le 11 septembre, pour le coup, il y a des gens qui ont utilisé le 11 septembre en racontant des classes dirigeante américaine, Bush pour ne pas le nommer, ils ont fabriqué des fake news et ils ont détruit l'Irak, ce qui a eu des conséquences terribles. Et bien là, l'analogie est très importante, parce qu'en fait, on a un virus qui apparaît, alors peut-être n'est-il pas apparu de manière naturelle, on ne le sait pas encore, dans un laboratoire. Finalement,
c'est un chercheur du CNRS qui publie une publication, c'est le cas de le dire,
oui.
Sur cette interrogation, voilà, il n'y a pas de soupçon de complotisme. Quand c'est un journaliste, en l'occurrence Pierre Barnérias, que j'ai eu au téléphone hier, qui ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant, mais que je connais depuis longtemps. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il y a un problème véritable avec la liberté d'expression? Parce qu'on a tendance à entendre, bon, à la rigueur, soit il a peut-être dit des choses erronées, mais est-ce que pour autant il mérite que son documentaire soit retiré de toutes les plateformes à une vitesse inouïe, que les cagnottes qu'il avait récoltées soient bloquées? Il y a un problème quand même.
Bien sûr, parce qu'il y a une telle volonté d'occultation, il y a une telle chape de pont, il y a une telle finalement pensée unique, que dès lors que vous la contestez, l'argument d'autorité va être c'est du complotisme. Donc effectivement, finalement, bizarrement, c'est ça qui nourrit le complotisme, c'est ça qui fait que les gens vont
voir... C'est l'effet stressant en plus, comme on dit, parce que
exactement,
on ne veut pas en parler, mais en parlant autant, finalement,
donc,
la une de Libé quand même, on le rappelle vendredi.
On arrive à connecter des points qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et à servir une explication, à mon avis, délirante, tout en rappelant des choses qui sont vraies, parce qu'il y a des tas de choses qui sont vraies dans ce reportage. L'interdiction de l'hydroxychloroquine bien en amont est vraie. Alors pourquoi, comment, c'est une question qui mérite d'être débattue, qui d'être posée. Le fait que les tests en France sont pas les mêmes qu'ailleurs et donc on arrive à avoir plus de faux positifs, c'est tout à fait vrai. Mais par exemple, je prends 15 exemples. Oui, les laboratoires se jettent dessus. Oui, bien sûr, il y a eu le test Discovery, derrière il y avait Gilead, etc. Tout ça est vrai. C'est pas du tout du complotisme. On refuse d'en parler, mais c'est pas du complotisme. En revanche, ce qui est délirant, c'est de dire que il y aurait comme ça un grand intérêt lié, enfin, c'est-à-dire que c'est de nier, par exemple, que les laboratoires sont en concurrence les uns avec les autres. Donc, ces laboratoires, ils sont très tendus, ils sont très fébriles, ils ont peut-être tous intérêt à ce qu'il n'y ait pas de traitement qui coûte pas cher, ça, on peut le comprendre. Mais en revanche, il n'y a pas un complot avec une Big Pharma qui serait allié avec la 5G et qui serait allié avec Bill Gates qui aurait fabriqué le virus. Ça, c'est délirant. Ce qui me semble très important aussi, c'est de bien comprendre que l'élite, la classe dirigeante dont je parle dans le livre, à force de refuser le débat, à force de refuser de discuter les faits, de prendre en compte un point de vue différent
du sien. Bah oui, parce que finalement, il faudrait installer un débat contradictoire, c'est la moindre des choses.
Et c'est ça qui alimente le complotisme. Vous avez un deuxième mécanisme, qui est l'interruption de la transmission culturelle. Et là, on est aussi dans le procès, d'une certaine façon, de la classe dirigeante, puisqu'elle a démoli les programmes scolaires, elle a démoli les programmes même universitaires, et donc que les gens qui enseignent eux-mêmes n'ont plus été enseignés. Donc vous avez une interruption de la transmission des connaissances qui fait que vous n'avez plus de culture générale. Or, la culture générale, c'est l'équivalent d'un système immunitaire dans un organisme humain, dans une démocratie. Si dans une démocratie donnée, le niveau culturel s'effondre, les gens n'ont plus de culture générale, en fait, vous avez effectivement du complotisme de l'un côté et de l'autre côté, des élites de plus en plus stupides et de plus en plus arrogantes qui refusent de discuter et qui disent « si vous contestez quoi que ce soit, c'est du complotisme ».
Alors justement, Guillaume Bigot, bah, ça nous amène, la transition est facile à parler, donc de votre dernier ouvrage. Hein. Je rappelle que tous vos précédents ouvrages sont quasiment tout le temps des best-sellers, donc il n'y a pas de raison que ça change. « Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française ?» Ça vient de paraître donc aux éditions Plomb dans la collection Tribune Libre, hein, très bonne collection. Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander, pour ceux qui n'auraient toujours pas lu, pourquoi ce titre « Populophobie, les élites n'aiment pas le peuple hein, ?» C'est ça votre... On va dire votre résumé.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a un divorce qui est mondial. Le diagnostic a été posé par bien d'autres auteurs. Je renvoie notamment à l'excellent historien britannique David Goodhart qui fait l'opposition entre les maintenant célèbres, entre les somewhere et les anywhere. C'est-à-dire une classe dirigeante qui décide à la fois de jouir sans entrave, de faire du business sans entrave au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique et qui décide de se délester du poids des peuples, du poids des populations. Autrement dit, cette classe dirigeante, elle décide d'avoir toujours des privilèges, toujours des droits, mais elle ne veut plus avoir de devoirs. Ça, c'est un phénomène planétaire. De sorte que le populisme est aussi en réaction à un mécanisme planétaire. Mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a une problématique, c'est une problématique mondiale qui rencontre un écho particulier dans notre histoire et dans notre identité politique, parce que dans notre identité politique, compte tenu de notre histoire, il y a toujours eu un divorce entre le peuple et les élites, un divorce très particulier à la France. Donc finalement, c'est un phénomène planétaire, mais en France, c'est beaucoup plus douloureux qu'ailleurs. D'où les Gilets jaunes d'ailleurs.
Alors justement, vous parliez de phénomène planétaire, ça nous renvoie aussi, hasard du calendrier, évidemment à ce qui se passe outre-Atlantique, hein, aux États-Unis, puisqu'il y a cette fracture, on peut le dire, entre deux Amériques, hein, celle de Trump et celle de Biden. Alors quel est d'abord votre point de vue sur cette situation politique abracadabrantesque, comme dirait un ancien président de la République ?
Total.
Pour vous d'abord, il faut attendre le 14 décembre ? Le vote des grands électeurs ou je considérez que bon, Trump, ça y est, c'est plié.
Il faut toujours être extrêmement prudent. On gagne toujours à être prudent. Mais ce qui paraît quand même assez flagrant, c'est qu'il y a quand même un écart. Bon, il y avait déjà... C'est vrai que l'écart de nombre de voix n'est pas nécessairement l'écart de grands électeurs, puisque comme chacun sait, aux États-Unis, c'est une sorte là de démocratie indirecte. Les gens votent au suffrage universel dans les États. Et ensuite, ce sont les États qui vont voter. C'est un État fédéral. Donc il me semble que l'écart à la fois en termes de grands électeurs et l'écart en termes de voix est trop important, de sorte que s'il y a eu, et il y a probablement, il y a toujours un peu de fraude, la fraude ne serait pas de nature à corriger cet écart.
À renverser le résultat.
Et il me semble qu'il faut aller plus en amont de l'élection, c'est-à-dire, il me semble que Trump est tombé dans une sorte de piège. Pourquoi ? Un peu comme et Biden, et le camp Biden en tout cas, parce que Biden lui-même, je ne sais pas s'il a beaucoup voix au chapitre, mais en tout cas le camp Biden a en quelque sorte agité un chiffon rouge et le taureau Trump a foncé. Je m'explique. En fait, Trump avait probablement un boulevard devant lui. On a vu d'ailleurs qu'il a progressé sur les minorités, il a progressé sur les femmes, il a progressé sur les minorités.
71 millions presque.
Exactement, c'est il a amélioré considérablement en nombre de voix son score de la dernière fois. Donc même en termes de grands électeurs, il aurait pu le faire. Ça aurait vraiment pu fonctionner. Mais il a eu un peu ce péché d'orgueil. Et intelligemment, le camp Biden l'a excité sur son propre terrain. Or, on sait que c'est un personnage hors de toutes les séries, mais ultra narcissique. Et dès lors qu'on le met en cause, lui, finalement, voilà. Donc ils ont attiré le débat électoral, non pas sur les résultats de Trump qui étaient plutôt bons, non pas sur ce que le camp d'en face avait à proposer, c'est-à-dire plutôt rien, mais ils ont attiré le débat intelligemment sur pour ou contre la personnalité de Donald Trump. Et Donald Trump, au lieu de défendre son bilan, son programme, alors c'est toujours facile, hein, bien sûr, on n'est pas à sa place, mais il est tombé dans ce panneau, et pour le coup, sa personnalité est tellement extravagante, elle est tellement outrancière que ça l'a abîmé. En fait, le reproche qu'on lui a fait depuis le départ, c'est de ne pas avoir présidentialisé sa fonction et d'être resté un trublion. De fait, il est resté un trublion.
Et vous pensez, vous, que Biden est le candidat de l'élite des médias ?
C'est pas moi qui le pense, c'est que quand vous regardez ce qui se passe dans le débat outre-Atlantique, vous rendez compte que quasiment tous les médias, alors mis à part Fox News et quelques sites, ouais, comme on dit, de réinformation,
commencent un petit peu
à vaciller. Et parce que on peut défendre la cause de Trump, mais on peut difficilement défendre Trump contre Trump lui-même, en quelque sorte. Mais je pense que l'essentiel des médias et l'essentiel de la classe dirigeante, et on en revient à cette fracture peuple-élite, en fait, ça se voit de manière géographique. Vous voyez bien qu'il y a finalement, c'est un tort lorsqu'on dit les 1%. Vous savez, c'est quelque chose qu'on entend souvent, les 1% qui bénéficient de la mondialisation. C'est totalement faux. C'est pas 1% qui bénéficie de la mondialisation, c'est probablement 20 à 30% de la population d'un pays qui est soulevée par les vents de la globalisation. On le voit aux États-Unis comme en France, comme partout. Vous avez des métropoles, la capitale bien sûr, mais les métropoles régionales qui connaissent quand même un emploi important. Il y a relativement peu de sous-emploi dans ces métropoles. Il y a des flux de la mondialisation. Globalement, la globalisation est un calcul bénéficiaire. Et puis vous avez l'Amérique oubliée, vous avez la France périphérique. Et en réalité, s'il n'y avait pas ce phénomène massif de l'abstention, ça aurait déjà basculé dans la post-mondialisation ou la post-globalisation. Ce qui est très important à comprendre, c'est que la classe dirigeante, elle a investi les institutions, elle a investi les médias, et finalement, elle a réussi à dégoûter 20, 30, 40% du corps électoral qui refuse de voter. Un peu comme des grands brûlés refusent de faire des UV. Ils se sont fait avoir une fois, deux fois, trois fois. C'est très douloureux. Maintenant, ils ne se déplacent plus, ils ne votent plus, parce qu'ils ont bien compris qu'on peut changer finalement de politicien, on ne peut plus changer de politique. C'est verrouillé. Donc oui, il y a un verrouillage. L'autre mécanisme qui permet de boucler la boucle, c'est que les médias, beaucoup de médias ont été rachetés par des intérêts. Alors pour le coup, il ne faut pas tomber dans le complotisme. Ce n'est pas un intérêt, ce n'est pas les 1%, ce n'est pas Bill Gates, ce n'est pas la trilatérale. Non, c'est finalement l'intérêt des gens et des grandes entreprises qui fonctionnent et qui ont davantage de bénéfices que de coûts à la mondialisation. Quelqu'un comme Bernard Arnault, oui, la mondialisation a détruit énormément d'emplois industriels en France, mais par contre, à créer des débouchés pour ses produits en Chine. Donc on peut très bien comprendre qu'un Bernard Arnault, lui, il voit un intérêt à la mondialisation. Alors qu'est-ce que va faire quelqu'un comme M. Arnault ? Intelligemment, il va acheter les médias. Il ferait pareil à sa place. Et grâce à ça, il va pouvoir véhiculer, finalement, une vision relativement favorable de la mondialisation. Il ne va pas dire du mal de la mondialisation, ça fait sa richesse. Donc vous voyez, ce n'est pas tellement des complots, c'est simplement le fait d'un problème d'intérêt. Et lorsque vous dites que la mondialisation, c'est l'affaire de 1%, vous passez à côté de l'essentiel. Il y a quand même un peu plus de 22% de gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour.
Alors justement, on y vient à Emmanuel Macron, parce que donc on va parler en détail de ce livre. Vous écrivez, je vous cite, « Le sixième président de la Ve République a cristallisé sur sa personne ce qu'une majorité des Français rejette depuis 40 ans, le capitalisme financier, la morgue technocratique, la démagogie démagogie politicienne, l'arrogance du tout Paris, l'indulgence pour le communautarisme et l'européisme béat. Il a perdu toute légitimité, selon vous, Emmanuel Macron ? Vous y allez fort, quand même.
J'y vais fort, mais c'est un extrait. Je lui reconnais... c'est pas lui reconnaître des qualités. Il a objectivement des qualités. Et je commence le chapitre qui lui est consacré comme ça, en disant que finalement... ses qualités intrinsèques, sa capacité à incarner la fonction présidentielle que nul ne lui conteste, son autorité naturelle que nul ne lui conteste, son intelligence que nul ne lui conteste, son brio, etc. C'est un homme qui parle bien, c'est un homme qui a les idées claires, l'aurait mis, si vous voulez, en situation d'incarner ce qui est finalement une figure très profondément ancrée dans l'histoire de France, c'est-à-dire le dirigeant central qui va s'appuyer sur les intérêts de la population pour contester les prébendes de la classe dirigeante et de l'élite. Que lui-même vienne de l'élite, c'était pas gênant. C'est pas un problème en soi qu'il vienne de l'élite. Le problème, c'est qu'il est d'une certaine façon un peu l'énarque terminal. Il est le représentant de cette élite qui effectivement a perdu toute autorité, toute légitimité, toute crédibilité et qui a utilisé quelques manœuvres pour faire 5 minutes, monsieur le bourreau, pour rester encore un peu aux fonctions. Alors, comment il s'y est pris ? Effectivement, il y avait le Parti Socialiste qui prenait l'eau de toutes parts, LR qui prenait l'eau de toutes parts, et s'il prenait l'eau l'un et l'autre, c'est parce qu'en réalité, c'était un peu Coca-Cola et Pepsi-Cola. On voyait bien qu'ils avaient, comme disait Philippe Séguin, la gauche et la droite, c'est pas la peine pour les comprendre. Il faut bien
donc
voir
on est à la fin d'une ère politique, selon vous.
On est à la fin d'une ère politique. Séguin disait, la gauche et la droite, en fait, ce sont des détaillants, ils ont le même grossiste, c'est l'Europe. Voilà, bon. Alors, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rassemblé, enfin, il a fait un tiers parti qui est en réalité une espèce de lobby qui a récupéré des gens de LR, qui a récupéré des gens du PS et il a prolongé ce système qui est relativement moribond. Voilà ce qu'il a fait. Donc c'est pas tellement sa personne lui-même, si ce n'est que sa personne, ses réactions, son hostilité, son mépris aussi à l'égard du peuple français, il l'a exprimé à de multiples reprises, on va pas revenir sur ses déclarations, font de lui finalement la quintessence, l'incarnation de cette classe dirigeante terminale. Parce que lorsque le général de Gaulle met sur orbite les énarques, les technocrates, on est à la fin des années 60, ces technocrates et ces énarques, pendant 20 ans, peut-être même 30 ans, vont finalement faire beaucoup de bien à la France. C'est eux qui ont créé, par exemple, les autoroutes, c'est eux qui ont créé toute la filière nucléaire, c'est eux qui vont créer... les grandes entreprises, l'EDF, etc., le TGV, bon, tout ça va faire la fortune de la France jusque dans les années 90. Et puis ensuite, cette classe dirigeante, elle va se retourner d'une certaine façon contre ses propres principes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une classe dirigeante, elle ne dirige qu'au nom d'un certain nombre d'idéaux. Si vous prenez par exemple les énarques, à l'École nationale d'administration, il y a une devise. Cette devise, c'est « servir sans s'asservir ». Mais lorsque vous avez quelqu'un qui a choisi, comme M. Macron...
Être sans se servir aussi.
Et sans se servir, absolument. Vous avez parfaitement raison. Mais justement, à la sortie de l'ENA, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a, comme on dit, pantouflé. C'est-à-dire qu'il est allé dans la banque. C'est pas un crime en soi. Mais vous voyez bien que ce au nom de quoi cette élite, elle se considérait comme l'élite, elle se considérait comme au-dessus, c'est qu'elle avait davantage, le sens de l'État, davantage le sens de l'intérêt général. C'est qu'elle s'était engagée à servir le public en servant l'administration. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va faire de l'argent avec le CAC 40, avec la mondialisation, servir cette idée européenne, servir cette idée du bon plaisir individuel, de enrichissez-vous, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction dans les termes. Finalement, l'élite ne sert plus son idéal, elle est en contradiction avec elle-même. Et ça, c'est le même mécanisme, finalement, au fond, que la veille de la Révolution française. La veille de la Révolution française, vous aviez une aristocratie qui ne tirait plus l'épée pour le roi, qui était devenue inutile sur un plan social, c'est-à-dire qu'elle ne rendait plus de service au pays. En revanche, elle n'avait jamais été aussi arrogante, aussi méprisante et aussi attachée à ses privilèges. Et c'est pas moi, c'est Chateaubriand qui résume ce qu'on voit sur les chaînes info. En fait, il a cette formule définitive dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Il dit les classes dirigeantes connaissent toujours trois âges. En fait,
ouais,
l'âge des supériorités, l'âge des vanités. Plutôt l'âge des privilèges et l'âge des vanités. Eh bien, sortie du premier, elles se maintiennent dans le second, elles s'éteignent dans le troisième. Je pense que l'énarchie mise sur orbite par le général de Gaulle dans les années 60 est entrée dans son âge des vanités, donc elle est entrée dans son âge terminal. Le fait que M. Macron soit très jeune ne signifie pas que, symboliquement, cette classe dirigeante-là, elle n'est pas finalement entrée dans une sorte de sénescence, vous voyez, d'âge un peu sénile. Elle répète toujours les mêmes choses en boucle, les solutions qu'elle a promues prennent l'autre partout, et finalement ça a fonctionné très longtemps, parce qu'il y a une sorte de chantage à la compétence. Parce qu'on s'est dit, bon, effectivement, il ne règle pas la question de l'immigration, il ne règle pas la question de l'emploi, il ne règle pas la question de la redistribution sociale en France, il n'arrive pas à maintenir le service public. Mais globalement, cette classe dirigeante-là, elle est très compétente, elle est très bien formée. Et en réalité, je pense que la crise sanitaire, qui a déclenché d'autres crises, notamment la crise des banlieues, etc., cette crise sanitaire, elle a finalement servi de révélateur. Vous voyez, le symbole, ça va être le masque, mais finalement, ça a démasqué en quelque sorte l'incompétence de la classe dirigeante. Parce que ce qu'on peut reprocher à la classe dirigeante, c'est pas tellement d'avoir fait l'ENA, c'est pas tellement de vouloir faire de l'argent, c'est pas tellement d'être pour l'Europe. Ils ont tout à fait le droit, on est en démocratie, ils ont le droit de défendre ces points de vue. Le problème, c'est qu'ils nous expliquent en permanence qu'il n'y a, si vous êtes intelligent, vous ne pouvez adhérer qu'à ça. Et si vous contestez ça, c'est que vous êtes un imbécile sous-diplômé. En réalité, c'est une attaque, donc absolument, finalement, non populiste, de ce que j'appelle la populophobie, c'est-à-dire le mépris de la population, à travers le prisme de la compétence.
Enfin, le mépris du peuple, hein, c'est ça.
Le mépris de la populophobie, c'est ça l'idée, c'est que finalement, le populisme, c'est pas une génération spontanée, le populisme est venu en réaction à une populophobie. Il y a d'abord eu une populophobie, et ça a déclenché ensuite le populisme en réaction. Eh bien, en réalité, je pense que la compétence, c'est l'angle centre, enfin c'est l'angle, le bon angle pour attaquer cette classe dirigeante. Parce que le problème, on veut bien les garder. C'est pas qu'on en a assez d'eux. C'est que les solutions qu'ils proposent, si on les garde, si malheureusement on commet l'erreur de les garder, les solutions qu'ils proposent nous amènent dans le mur à très grande vitesse. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment, ils ne lâchent plus leur tabou. Pour le comprendre à nouveau, il faut voyager dans l'histoire. Lorsqu'en 1940, l'état-major, les plus hauts gradés de l'armée française, l'école de guerre, disent à Charles de Gaulle, vous êtes un imbécile parce que vous pensez qu'il faut attaquer, vous pensez que la combinaison de la vitesse, du cuirassé et de la puissance de feu, ça renouvelle l'art de la guerre et donc on n'en sera plus aux tranchées de 14-18, vous êtes un imbécile. Nous avons le savoir. Et nous, du haut de notre savoir, l'argument d'autorité, vous êtes un complotiste, voilà. L'argument d'autorité, c'est que la ligne Maginot va nous protéger. Voilà. Sauf que la ligne Maginot, elle n'a même pas tenu 3 semaines. Je pense que c'est là le fond de l'affaire.
Oui, c'est ça qui est vraiment passionnant dans votre livre, hein, puisque au-delà de traiter de l'actualité, il est émaillé de références historiques. Et c'est vraiment passionnant. J'encourage vraiment nos auditeurs à aller l'acheter ou à le commander, hein, puisque les librairies sont fermées. Guillaume Bigot, donc, auteur de Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française aux éditions Plon, est notre invité jusqu'à 14h sur Sud Radio. Et on est ravis de le recevoir. Ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillot.
De nouveau dans Les Incorrectibles jusqu'à 14h avec notre invité. Nous sommes toujours en direct sur Sud Radio. Notre invité, c'est donc le politologue et auteur Guillaume Bigot à l'occasion de la sortie chez Plon dans la collection Tribune Libre de son dernier ouvrage « Pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française ». Alors en parlant de classe dirigeante française, il y en a un qui n'y a jamais accédé, hein, à la tête du pays. Mais en tout cas, il a, ça n'a étonné personne, annoncé à nouveau sa candidature. C'était en début de semaine. Vous devinez évidemment de qui je parle, c'est de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que sa candidature est crédible aujourd'hui pour vous, Guillaume Bigot, sachant qu'il a le soutien de plus de 150 000 citoyens d'une part, mais que ce n'est pas franchement la nouvelle génération?
Vous savez, quand vous avez déjà 200 000 abonnés sur Twitter ou plus, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, hein, et que vous proclamez qu'il faut 150 000, bon, vous donnez dans le marketing politique le plus bas de gamme. Enfin, finalement, ce n'est pas là pour redresser le pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de la tactique en politique, mais enfin là, c'était un peu gros. Mais ce n'est pas le sujet Mélenchon. Le sujet Mélenchon, me semble-t-il, c'est que les deux font la paire avec Marine Le Pen, si je m'explique. C'est-à-dire que...
Oui, j'allais y venir, justement.
Ils sont ce dont la classe dirigeante... ce que la classe dirigeante peut rêver de mieux. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. La première, parce que chacun des deux contient une solution. C'est un peu comme de la nitroglycérine. Si vous voulez, il faut changer de modèle économique... Et il faut changer de modèle sur la question de l'identité et de l'immigration. Mais tant que ces deux aspects de la solution sont scindés en deux, c'est comme de la nitroglycérine, ça ne peut pas devenir explosif sur le plan politique. Et deuxièmement, vous voyez bien que l'électorat de Mélenchon et l'électorat de Marine Le Pen, ils ne pourront jamais faire des enfants politiquement ensemble ou électoralement ensemble pour l'instant. Donc pour la classe dirigeante, c'est formidable. D'une certaine façon, ça divise en deux angles d'attaque distincts ce qu'on peut leur reprocher.
C'était un petit peu le pari qu'avait tenté Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. C'était de ramener à elle cette, il y avait cette divergence avec justement d'autres comme Florent Philippot, je crois. C'est qu'elle a voulu justement, plutôt qu'aller chercher les voix de la droite, de Fillon, plutôt d'aller sur le terrain de Mélenchon.
Avec quel résultat, vous avez vu ? C'est compliqué. D'abord, alors là, c'est une autre loi électorale, c'est que finalement, quand vous partez de la gauche, vous pouvez aller vers la droite, mais quand vous partez de la droite, vous pouvez difficilement aller vers la gauche. C'est encore un autre considérant. Mais il me semble tout de même que Mélenchon et Marine Le Pen sont chacun dans leur registre, ils ont des qualités, mais chacun dans leur registre, finalement, ils reconnaissent à la classe dirigeante qu'elle est seule compétente. Et d'une certaine façon, chacun le sent bien, l'un comme l'autre, ils sont beaucoup plus à l'aise dans leur rôle de critique ou d'opposant qui monte le ton, populiste, etc.
Mais d'opposant extrêmement violent, selon vous.
Mais bien sûr. Ils ne sont pas en situation de gouverner. Et je vais vous dire pourquoi.
Non, mais de gouverner, c'est autre chose. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen ne pourrait pas devenir en situation d'être élue en 2022 ?
C'est une autre question que vous posez. Tout est possible en politique. En réalité, tout est possible dans l'histoire. Il y a des choses même les plus inattendues. Donc, c'est pas impossible. Moi, c'est pas mon intuition première. Mais c'est pas impossible. Mais on ressent finalement pourquoi l'un comme l'autre ne peuvent pas y aller. D'abord parce qu'ils sont séparés et divisés et qu'on ne peut pas les mêler ensemble. Mais pour une autre raison, c'est que finalement, quand vous êtes absolument certain de votre fait. Quand vous savez que vous avez les arguments, les instruments, les outils, les équipes pour redresser le pays, finalement, vous n'avez même pas besoin d'être dans la critique. Ce qui est beaucoup plus fort, c'est de pas... Il faut arrêter de dire à la classe dirigeante pourquoi elle est nulle. On a bien compris qu'elle était nulle, on a bien compris qu'elle prenait l'autre partout, qu'elle n'avait pas les solutions. La question qui intéresse aujourd'hui les Français, me semble-t-il, c'est pas en quoi la classe dirigeante qui nous gouverne depuis 30 ou 40 ans est nulle, c'est qu'est-ce qui peut fonctionner. Or, ni l'un ni l'autre ne nous explique ce qui peut fonctionner. Et finalement, lorsque vous découvrez un horizon, lorsque vous déclenchez un espoir, un enthousiasme, lorsque vous montrez une direction, et lorsqu'en plus cette direction, elle est juste, les gens le savent et vous êtes en mesure de rassembler. Tant que vous tapez, tant que vous avez un discours qui est négatif, vous ne pouvez pas agréger. Or, l'un comme l'autre ont un discours purement négatif qui n'est pas un discours agrégatif. Si on fait la comparaison avec Trump, d'une certaine façon... il n'était pas d'abord un politicien professionnel, c'est quelqu'un qui avait fait d'autres choses dans sa vie, il avait une forme de crédibilité en tant que capitaliste. Quand il critiquait le capitalisme, c'était un capitaliste qui avait fait fortune qui critiquait le capitalisme. Ça avait un tout autre, finalement, un retentissement. Et puis, il est arrivé dans la classe politique comme un chien dans un jeu de quilles.
C'était un paradoxe, parce qu'il était issu lui-même d'une élite. Son père était favorisé.
Mais je ne dis pas autre chose, finalement, dans ce livre. Je pense que c'est la limite des Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes...
Alors voilà.
Les Gilets jaunes, et c'est un procès vraiment scandaleux qui leur a été fait, comment des gens qui ne se connaissaient pas, qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas le temps, qui doivent se débattre dans des problèmes quotidiens épouvantables, qui se rencontrent pour la première fois sur des ronds-points, comment on peut leur faire le reproche en quelques mois de trouver des solutions alors que l'élite, en 30 ou 40 ans, n'a fait qu'aggraver les problèmes. C'est un procès inique. Donc effectivement, la limite, c'est que le peuple ne peut pas se gouverner lui-même. Il y a toujours besoin d'une élite. Le problème clé qui n'est pas pensé, c'est le changement d'élite. C'est le remplacement d'élite. Et là aussi, l'histoire est intéressante.
Alors vous écrivez justement dans votre livre « Teigneux et fier, le Français ne cède jamais devant celui qu'il considère comme son égal. La seule manière d'emporter sa conviction, c'est de lui présenter un homme exceptionnel. » Ou encore, vous en parliez, la crise des Gilets jaunes nous oblige à penser à un renouvellement des élites par le bas. Un sondage du 21 mars 2019 indiquait que les Gilets jaunes réservent leur confiance à des gens comme eux, je vous cite. Alors, la question, je vous la pose, est-ce qu'un Gilet jaune, par exemple, Guillaume Bigot, pourrait être élu ? Qui pourrait incarner ce pouvoir ? Le Figaro parle d'une candidature potentielle du général de Villiers, ça vous paraît envisageable ?
Oui, mais encore une fois, c'est peut-être moins la personne elle-même que ce qui est proposé. Et avant que ça se fixe sur une personne, la question, c'est celle finalement de la cohérence d'un programme, de quelque chose qui serait une solution crédible permettant de redresser la France et qui ne ressemblerait finalement à rien de ce qu'on entend aujourd'hui. C'est ça l'idée. Le général de Villiers, je pense que son programme, malheureusement, c'est un petit peu de l'eau tiède, si vous me passez l'expression. Et pour le reste, oui, un gilet jaune, c'est possible. Je vous vous signale que Jeanne d'Arc, c'était une paysanne illettrée et qu'elle a fait l'histoire de France. Je vous signale encore que Robespierre et Danton étaient parfaitement inconnus au début de la Révolution. Je vous signale que des gens comme Gambetta ou comme Clémenceau, au moment du Second Empire, n'avaient strictement aucune chance d'arriver au pouvoir. Il y avait une aristocratie d'empire à ce moment-là, et il y en avait essentiellement pour les grands banquiers et les nobles d'empire.
Mais enfin, faudrait qu'ils se dépêchent d'émerger, parce que c'est en 2022, et puis on l'a vu, les Gilets jaunes...
Alors, ça, c'est une autre constante de notre histoire. Malheureusement,
on a eu beaucoup de leaders, hein, des Gilets jaunes.
Malheureusement, ça ne fonctionne qu'avec des crises. Je pense qu'il faut quand même que... C'est pas un leader, ce sont des leaders, ce sont des gens qui sortent un peu du lot. Et c'est vraiment uniquement à l'occasion de crises relativement graves que ça peut se passer. Et en fait, vous avez, pour comprendre le mécanisme, vous avez une crise. Et cette crise, elle permet quoi? Elle permet en fait trois changements qui sont simultanés. Le premier changement, c'est un changement de génération. Il est certain qu'on voit bien, et la crise du Covid le prolonge, Macron est un homme jeune qui défend finalement essentiellement, il parle de Startup Nation, mais son truc c'est quand même l'EHPAD Nation, et le Covid le démontre tous les jours. Deuxièmement, il y a un changement de génération, ça veut dire que c'est plutôt des jeunes générations que va émerger une solution. Deuxièmement, c'est un changement de sociologie. Regardez là encore dans l'histoire, après la crise de 1870, les gens qui ont fait la Troisième République. Les gens qui ont fait la Troisième République, je parlais de gens comme Gambetta, Clémenceau, on pourrait citer les Jules, c'est Jules Ferry, Jules Guesde, etc. Tous ces gens qui ont fait la loi sur les associations, la loi sur la laïcité, la loi sur la séparation d'Église et de l'État. C'est eux qui ont fait une République digne de Sparte, qui a tenu le choc dans le combat titanesque de 14-18. Or, ces gens-là, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils appartenaient à une nouvelle sociologie. Non seulement ils étaient jeunes, mais c'est une nouvelle sociologie. Ils ne ressemblaient pas à l'élite d'avant. Donc, autrement dit, ce ne seront pas des énarques, ce ne seront pas des jeunes. Déjà, deux catégories.
Ouais.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, c'était plutôt des notables locaux, plutôt des professeurs, des médecins, des notaires, qui étaient élus par la province à l'Assemblée nationale et qui ont pris le pouvoir. Enfin, troisièmement, on en revient sur cette loi des trois stades des classes dirigeantes, c'est qu'à un moment, une classe dirigeante qui est formidable comme celle des Jules de 1880, on va dire, jusqu'en 1914, elle peut devenir nulle. En 1940, elle est devenue nulle. Et puis, comme De Gaulle n'a pas eu le temps de la changer, en 1958, elle a encore retombé dans la guerre d'Algérie. Et enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il faut la Commune de Paris, il faut 1789,
bah oui,
il faut la guerre d'Algérie,
dites,
il faut
votre,
la, exactement, il faut
dans
des
votre
crises.
Ouvrage que la France de 2020 ressemble à celle de 1789. Vous reprenez les termes de roi, noblesse, tiers état. Vous pensez qu'on est dans une période où qu'on pourrait arriver à une période pré-révolutionnaire, Guillaume Bigot, bord d'une guerre civile même?
Dans toutes les comparaisons historiques, il y a des points semblables, ce qui permet les comparaisons et des points de différence. Ce qui est compliqué pour comprendre la singularité du présent, il faut tenir compte de l'histoire, il faut tenir compte de ce que l'histoire a à nous apprendre, tout en étant prêt à faire face à l'inconnu, à quelque chose finalement qui va surgir, qui est radicalement neuf. Je pense qu'il y a des coordonnées dans notre histoire qui nous permettent de comprendre ce qui va se passer. D'abord, malheureusement, la France, c'est un pays de grande douceur, c'est un pays... qui a pris une femme pour... je pense que c'est un symbole très éclairant pour se représenter elle-même. Lui-même, c'est Marianne, etc. Il y a quelque chose de très doux dans notre pays. Il y a une énorme tolérance. Il y a le symbole... Enfin, l'une des valeurs clés de la France, c'est la fraternité. Et en même temps, c'est le pays des guerres civiles. Et en même temps, c'est le pays des fractures terribles. On parlait de... si on parle de la Révolution française, la terreur était terrible. Les guerres de religion étaient terribles. Au moment de la libération, il y a eu l'épuration, c'était terrible. La guerre de Vendée était terrible, etc. Donc je pense que ça, dans notre histoire, on sent bien qu'une déchirure extrêmement violente est possible. Là, je pense que ce qui se passe dans les banlieues, et effectivement, ne sont pas très bons, est très, très, très inquiétant. Parce que finalement, sur le long terme de l'histoire de France, qu'il s'agisse des Huguenots, qu'il s'agisse des Vendéens, qu'il s'agisse des Collabos, qu'il s'agisse de n'importe quel groupe finalement politique ou religieux qui essaye de prendre les armes ou qui essaye, pour reprendre le terme à la mode, de faire du séparatisme, finit écrasé dans le sang.
Et vous pensez que les Gilets jaunes sont majoritaires en France ?
Je pense que les Gilets jaunes sont majoritaires si quelqu'un parvient à réveiller les abstentionnistes qui sont finalement le premier parti. En réalité, les grandes masses, hein, on parlait de Mélenchon, maintenant ça s'est rétracté, c'est plus le Mélenchon 2017, mais est-ce que le Rassemblement
c'est
national...
Apaisé, d'ailleurs.
Oui, enfin, quand on fait des perquisitions chez lui, il a l'air un peu plus énervé quand même. Mais c'est vrai, quand il porte les valises des islamo-gauchistes, il a l'air un peu plus dans son élément. Non, il s'est malheureusement un petit peu coupé de sa propre base, ce qui fait qu'il a eu un effet d'entraînement en 2017. C'est qu'il avait un discours social et économique qui faisait mouche et qu'il avait commencé à sortir un peu le tricolore et à chanter à nouveau la Marseillaise et à s'adresser finalement à l'histoire de France et ce qui nous rassemble tous entre Français. Donc pour comprendre ce qui peut se passer, il y a les dimensions finalement de guerre civile, de division, effectivement. De révolution, j'y faisais allusion, enfin je parle de ça dans le livre parce que je me suis amusé, c'est pas un amusement, mais j'ai regardé finalement, à la veille de la Révolution française, quelle était la proportion de la noblesse par rapport à l'ensemble du pays. Et j'ai fait cet effort de regarder le nombre de diplômés des grandes écoles en France, et d'abord les premières.
Monde que vous connaissez bien d'ailleurs.
Monde que je connais bien.
Tiens, est-ce qu'il faut supprimer l'ENA selon vous, ce serait symbolique ?
Non, je crois pas. Je crois que l'ENA a sa fonction. Le problème de l'ENA, c'est que les énarques, beaucoup d'énarques sont sortis de leur domaine de compétence. Ça se voit tous les jours avec Castex et Macron. C'est-à-dire qu'ils sont très très forts. Ils sont très forts pour faire quoi ? Ils sont très forts pour fabriquer des règlements. Ils sont très forts pour être des hauts fonctionnaires, finalement. Donc s'ils sont commandés, si on leur donne des instructions, ils sont formidables. Macron, en tant que directeur de cabinet, il est impeccable, il est extraordinaire. Castex aussi. Mais quand ils sont en situation de prendre des décisions, ça ne va plus. Pourquoi ça ne va plus ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout ni sélectionnés, ni formés pour trancher, pour décider. Ils sont sélectionnés et formés pour identifier les contraintes, identifier ce qui fait que c'est compliqué de décider et faire des plans en deux parties, deux sous-parties, pour dire que c'est compliqué.
Eh bien, Guillaume Bigot, on va poursuivre ces discussions justement dans un petit instant. Ne bougez pas, on revient dans Les Incorrectibles sur Sud Radio, juste après ça.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles ce dimanche, toujours en direct avec notre invité. On est ravis de le recevoir. C'est le politologue Guillaume Bigot à l'occasion de la sortie chez Plon dans la collection Tribune Libre de son dernier ouvrage, sans doute encore un best-seller, Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. Alors juste avant de s'interrompre, Guillaume Bigot, vous parliez justement d'Emmanuel Macron, du Premier ministre, qui seraient tous les deux des très bons directeurs de cabinet, mais qui sont peut-être un peu moins bons quand ils sont aux affaires. Alors, j'aimerais vous faire écouter, on va évidemment parler à présent de cette crise sanitaire, un témoignage poignant, c'était chez nos confrères de CNews, chez Pascal Praud. Écoutez ce témoignage de Sylvie Brossard, qui est chef d'entreprise.
Je supporte plus d'entendre les gouvernants. Castex, hier, je supporte plus, je craque. Ces gens-là décident de la vie et de la mort des autres, d'accord ? Ils mentent toute la journée. Je voudrais juste vous dire, monsieur Praud, les politiques vous mentent, Bruno Le Maire vous ment. Donc si vous voulez, il faut intégrer une chose. Moi, le Covid, ce dont je suis sûre, c'est que je ne mourrai pas du Covid. Par contre, je vais mourir de tous les effets collatéraux du Covid, du fait que je deviens cinglé.
Guillaume Bigot, poignant ce témoignage.
Ouais, c'est terrible. C'est terrible parce que finalement, on est dans une sorte de quiproquo terrible. Moi, je pars du principe que le gouvernement, en fait, a d'abord peur de nous. Ils ont peur du peuple. C'est le syndrome du sang contaminé. Ils se protègent eux-mêmes, en fait, en jouant la carte du principe de précaution, on verrouille tout, on ferme tout. Ensuite, il y a effectivement, tout de même, une sorte de mépris de classe, de mépris de caste et d'ignorance de la manière dont les gens vivent au quotidien. Ça, c'est
pardon
sûr.
De revenir, quand on entend ce témoignage, la crise sanitaire, ça fait faire n'importe quoi ou pas au gouvernement, selon vous ?
Ça révèle d'abord plusieurs choses. Ça révèle que le gouvernement ne peut pas faire grand-chose d'autre que de se protéger lui-même, que de jouer le principe, la carte du principe de précaution, j'allais dire pour son propre matricule, pour se protéger lui-même. Voilà. Et ça révèle que le gouvernement ne sait pas faire beaucoup d'autres choses que de produire des normes, des règles administratives, parfois complètement ubuesques, j'y faisais référence tout à l'heure. Je pense que les énarques sont très bons comme fonctionnaires ou fonctionnaires. Mais pour diriger, il y a deux éléments essentiels. Il y a d'abord le fait de trancher, faire du « en même temps ». C'est pas possible. Un confinement strict, en fermant les frontières strictement, oui, ça peut fonctionner. Ça existe dans d'autres pays. Mais si vous faites du en même temps, ça marche pas très très bien. Ensuite, l'idée, c'est d'imaginer, c'est-à-dire aussi d'improviser, de trouver des solutions qui n'existent pas encore. Bah, écoutez, je ne vais pas leur donner de leçons, c'est difficile, mais on imagine qu'il y a 120 000, par exemple, infirmières libérales ou infirmières libéraux dans le secteur privé. Il y a pas mal de gens qui sont à la retraite, qui sont compétents. Peut-être que ce n'était pas totalement invraisemblable d'imaginer d'en mobiliser une partie. D'ailleurs, certains l'évoquent maintenant, avant. Donc, moi, ce qui me semble vraiment incroyable dans cette crise sanitaire, c'est que ça a joué le rôle des révélateurs. Révélateur que la stratégie de désindustrialisation, de tout miser sur le tourisme, de tout miser sur les services, ça débouchait sur une folie. Ça révèle finalement quelque chose que personne ne dit. Mais pourquoi il y a tous ces problèmes en banlieue? Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de quartiers sensibles qui ne vivent que de stupéfiants. Et vous imaginez bien que le confinement ne va pas aider au trafic de stupéfiants. Donc on a bien compris que pendant 30 ans, les classes dirigeantes ont dit « Bon, écoutez, on vous laisse tranquille. Alors, c'est pas qu'on ferme les yeux, c'est qu'on va vous laisser vous auto-organiser entre vous, tout en laissant l'immigration continuer. »
Le problème, c'est l'immigration, selon vous?
C'est pas le problème. L'immigration n'est pas un problème en soi. L'immigration devient une folie à partir du moment où vous n'êtes plus, comme disent les économistes, au plein emploi. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de job à fournir aux nouveaux arrivants et vous continuez à faire venir des gens avec le regroupement familial, vous continuez à faire venir des gens avec en détournant le droit d'asile, qui est quand même un des honneurs de la République, mais là, ça devient un moyen de faire finalement de l'immigration économique, et que vous les faites venir alors qu'ils n'ont pas d'emploi, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va forcément mal se passer. Et la deuxième condition pour que ça se passe bien, l'immigration, pour que ça soit un facteur de succès autant pour l'immigré que pour le pays d'arrivée, c'est extrêmement simple. C'est qu'il faut qu'il y ait un taux de fécondité des femmes, j'allais dire indigènes, c'est-à-dire sur place, locales, des Françaises, qui soit telle que vous ayez dans les classes suffisamment d'enfants français pour transformer en petits Français les enfants. On oublie toujours de rappeler que ce sont les enfants qui vont assimiler. Ce ne sont pas les adultes qui assimilent. Donc quand vous faites venir des immigrés et que les immigrés se retrouvent dans des classes où il y a que des immigrés, dans un pays où il n'y a plus de travail, où il y a un chômage important depuis 20 ans ou 30 ans, et une désindustrialisation de masse, oui, c'est de la folie. Enfin, c'est de la folie furieuse, comme l'euro est de la folie furieuse, comme la stratégie de remboursement de la dette était de la folie furieuse, comme l'état de droit au-dessus de la démocratie, c'est de la folie furieuse. En fait, tous ces choix dont on nous dit qu'ils ne sont indiscutables, sinon on est dans le populisme, que sais-je, dans le fascisme, dans le racisme, etc. Le problème, c'est qu'ils nous mènent droit au désastre.
Vous dites dans votre livre, cela fait si longtemps que nous n'admirons plus la France, nous peinons même à la reconnaître, ou encore nous avons refoulé l'identité profonde de notre pays. Est-ce que l'islamisme a saisi ce désamour et s'est intégré comme ça en France ?
Oui, et pas qu'en France d'ailleurs, parce que ce que les spécialistes ne relèvent pas, à mon avis, c'est que l'islamisme connaît d'autant plus de succès que la mondialisation va affaiblir le sentiment national. L'islamisme, ce n'est pas que, on ne peut pas le réduire à un patriotisme de substitution, mais néanmoins, ça marche bien là où il y a un sentiment national faible. Regardez par exemple les Kurdes. Les Kurdes ont un sentiment national très fort. Ils ne sont pas très travaillés par l'islamisme. Donc vous retrouvez ça en France, évidemment, à partir du moment où vous n'exaltez plus ce qui rassemble les Français, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur classe sociale, mais vraiment quelque chose qui nous rassemble, c'est-à-dire la patrie. Bah, effectivement, ça rend le discours des islamistes plus séduisant pour une raison simple. Et ça, c'est Jaurès qui l'éclaire. Il dit « Le patriotisme, c'est le bien de ceux qui n'ont rien ». En fait, plus vous descendez dans l'échelle sociale, et plus vous rendez compte qu'avoir une fierté collective, c'est quelque chose d'essentiel. Alors là, tous les ingrédients sont réunis. Vous avez des gens qui arrivent de pays musulmans qui sont déjà travaillés par l'islamisme. Vous avez ensuite des gens qui arrivent dans une société où il n'y a plus d'emploi et déjà du chômage. Vous les laissez finalement s'organiser entre eux et faire du trafic de stupéfiants, je caricature à peine. Et puis, en fin de compte, vous dites, bah, finalement, vous savez, notre pays, il a beaucoup torturé, notre pays a la même responsabilité historique, j'exagère à peine le trait, que l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle quand même que la France était le banc des vainqueurs et pas des vaincus. Il ne faut pas faire de révisionnisme historique. Alors on m'objectera, oui, mais toute la France n'était pas résistante. Mais j'objecterai que toute la France n'était pas collabo non plus. Et ce qui est fondamentalement intéressant dans cette histoire, parce que je pense que l'abaissement du sentiment national français, l'abaissement du patriotisme en France, il est essentiellement dû au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, les classes dirigeantes qui se sont retrouvées à Vichy, parce que qui était à Vichy massivement ? Les juges, les journalistes, les people, les hauts fonctionnaires. C'est eux qui savraient le champagne avec l'occupant. Donc il y a eu une espèce de bien-pensance vichiste, en fait, c'est la classe dirigeante. Et cette classe dirigeante, elle a gardé en quelque sorte cette espèce de trauma, de choc. Et elle cherche à coller sur le dos de la population française, dans les grandes masses, qui n'a été ni d'ailleurs ni très collaborationniste et ni très résistante, mais dans l'ensemble, qui évidemment, chacun peut le comprendre, les historiens le confirment. Quand vous regardez les lettres que les préfets recevaient, c'est très clair. Oui, Pétain a été tout à fait, si vous voulez, populaire au début de l'occupation, et rapidement, les Français se sont rendus compte de l'arnaque. Et surtout, comment imaginer que le peuple français aurait été content de voir un occupant en bottes, en armes, qui piquait quasiment 40 ou 50% du produit intérieur brut pour l'envoyer en Allemagne? Comment les jeunes Français auraient été contents d'être enrôlés de force pour travailler dans les usines allemandes? Donc il y a une réécriture absolument grossière et massive de l'histoire pour nous faire avaler l'Europe, pour nous faire avaler l'euro, pour nous faire avaler ce qu'ils appellent l'état de droit. C'est-à-dire, en fait, c'est une espèce de fétichisme juridique qui empêche que le droit soit l'expression de la démocratie, en fait. Le droit soit l'expression du peuple. Vous savez, dans la tradition française, on dit le juge, ça doit être la bouche de la loi. Donc en fait, le juge, normalement, n'a le droit de faire rien d'autre que d'appliquer les lois. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Les juges se sont emparés des traités, ils se sont emparés de la jurisprudence. Enfin, ils ont fabriqué une jurisprudence qui s'appuie sur les traités, qui s'appuie sur des modifications de blocs de constitutionnalité, etc. C'est-à-dire le fait de surinterpréter la Constitution et faisant en sorte finalement que, par exemple, on ne peut plus agir dans un certain nombre de domaines parce que c'est verrouillé d'un point de vue juridique.
On a plus que 5 minutes avant la fin de l'émission.
Pardon, j'étais trop long,
mais on voit pas le temps passer, justement. C'est ça qui est passionnant, long. Toutes ces références historiques. Alors justement, il y en a un quand même dont je peux pas m'empêcher de ne pas vous parler parce que c'est presque devenu à lui tout seul un personnage historique. Et là, je reviens un instant à cette crise sanitaire. C'est le professeur Raoult, Didier Raoult.
Panoramix.
Alors, qui est, vous parliez du droit, poursuivi dans l'ordre des médecins pour, je cite, charlatanisme et information erronée du public. Voilà les termes. Vous avez dit notamment récemment que la hargne à l'égard du professeur Raoult révèle la populophobie de la classe dirigeante. Vous en pensez quoi ?
Je pense que si on est cohérent, si on est cohérent avec soi-même et qu'on n'est pas médecin, on ne peut pas vraiment avoir d'avis fondé. Ce qu'on reproche essentiellement au professeur Raoult, c'est qu'il n'y a pas eu d'essai en double aveugle, donc on n'a pas apporté la démonstration scientifique de l'efficacité de son traitement. Ce qui est vrai d'ailleurs, mais dans ce cas, la moindre des choses, c'est de suspendre son jugement, vous voyez, c'est de ne pas avoir des avis catégoriques. Et quand vous entendez un Cohn-Bendit qui dit « il faut lui faire fermer sa gueule à celui-là », on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien pourquoi non plus un journal scientifique de la qualité du Lancet prend le risque de publier des études frelatées pour, entre guillemets, lui faire fermer sa gueule. Tout ça est quand même assez étrange. Moi, je pense que le professeur Raoult, je ne me prononcerai pas sur l'hydroxychloroquine, pas parce que je ne veux pas le faire, parce que je ne suis pas capable de le faire. C'est pas mon rayon, c'est pas ma compétence. Ce qui me semble suspect quand même, c'est cette espèce d'acharnement. Alors, cet acharnement, je pense qu'il révèle le fait que dès lors que quelqu'un appartient à la classe dirigeante, appartient à l'élite, et conteste l'élite, se retourne contre l'élite, évidemment, il va commettre une sorte de crime de lèse-majesté, il va trahir sa classe, et donc là, ça va être jugé comme totalement insupportable.
On arrive donc au terme de cette émission. Pour terminer quand même sur une note positive, le vivre ensemble, ça reste une illusion, vous y croyez encore quand même ?
Je pense que à partir du moment où la France retrouvera le moyen de se reconnecter à son histoire, à son destin, qui finalement est une sorte de légende vraie, nous on n'a pas besoin de Game of Thrones, en fait il suffit de lire l'histoire de France, c'est plus fou que Game of Thrones, c'est plus héroïque, c'est plus incroyable et c'était vrai. À partir du moment où on se reconnectera à cette histoire et où on aura l'audace de se reprojeter sur l'avenir, sur le destin, beaucoup de problèmes seront réglés, y compris celui d'immigration, pas de manière naïve, mais globalement, on pourra éviter la guerre civile et on pourra ressouder à nouveau les Français autour de leur destin, tout simplement. Parce que un pays, c'est un passé, mais c'est aussi un avenir. Et tant qu'on est enfermé dans l'Europe, on n'a plus droit à cet avenir.
Et en parlant d'avenir, justement, à l'horizon de 2022, vous parliez de cet homme providentiel. Je vous cite encore, cette élite qui n'a jamais été aussi impopulaire, n'a jamais été aussi arrogante que sous Macron. Pour relever notre pays, nous n'avons d'autre choix que d'inciter le tiers à faire émerger de ses rangs une élite nouvelle. Est-ce qu'un humoriste pourrait être élu ? Je pense notamment à Jean-Marie Bigard, qui un temps avait voulu se présenter avant de mettre en pause sa candidature. Ça vous a fait rire ou pas trop, finalement, cette candidature ?
Je crois
ça s'inscrit finalement dans la tradition française.
Moi, j'aime beaucoup rire, mais il ne faut pas mélanger les genres. J'ai beaucoup d'estime. Je dirais, c'est un homme d'une grande intelligence et d'une grande sensibilité. Mais il ne faut pas mélanger les genres. C'est pas son rayon. Je pense que là, il va se brûler les ailes. Et voilà. C'est, pour une fois, il ne m'a pas donné envie de rire, là, non.
Il faut donner plus
de pouvoir. Le sujet est trop sérieux.
Plus de pouvoir au maire, par exemple.
Bah dans ce grand dans cette espèce de grand mouvement de culbuto remplaciste les maires parce que finalement les électeurs les connaissent ils sont restés debout mais enfin il faut pas sacraliser non plus la fonction des maires. Regardez le projet de loi sur le séparatisme, il y a quelque chose qui est passé un peu à la trappe mais qui est très éclairant. Le président Macron a quand même prévu que les préfets puissent prendre la main sur les maires et prendre le pouvoir sur eux. Pourquoi? Ça m'a été dit un peu en off, parce que dans certains cas, les maires sont tellement physiquement menacés par les islamistes, par des trafiquants de drogue, ils ont peur. Et il y a un certain nombre de maires, on ne les citera pas, qui ont malheureusement dealé avec les frères musulmans et autres pour acheter la paix sociale. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus idéaliser les maires. Mais cette classe politique, finalement, elle n'est ni meilleure ni pire. Il y a des gens qui sont de grande qualité sur le plan individuel. Ce qui est le plus important, c'est que leurs idées sont absurdes et stupides. Et le plus important, c'est qu'on est impressionné par leur hyper-compétence. Et le plus inquiétant, c'est que leurs idées, si on les garde, elles vont nous amener dans le gouffre.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, pas si positif, hein, le dernier mot, mais en tout cas, j'encourage vraiment les auditeurs à lire ce livre, hein, de 400 pages, mais qui se lit d'une traite, avec toutes ces références historiques passionnantes. Vraiment, on apprend plein de choses. Merci beaucoup, hein, Guillaume Bigot, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je le rappelle, votre livre, Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française, ça vient de paraître chez Plon. Merci à Maxime Sénat, la réalisation. Merci à Lara Lopez au digital. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle, comme toujours, en replay, vidéo, sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h et on reparlera de cette crise sanitaire avec notre invité. Ce sera le docteur Louis Fouché. Très bonne semaine à tous, à l'écoute bien sûr de Sud Radio.